une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Il y a 30 ans, le mur de Berlin s'effondrait, mettant fin quasi instantanément à la guerre froide. À Berlin, ce fut un moment d'euphorie, comme l'histoire en rencontre rarement. Devant des policiers est-allemands médusés, des dizaines de milliers de Berlinois de l'Est franchirent pour la première fois le mur, accueilli à bras ouverts par des Berlinois de l'Ouest. Mais l'euphorie est vite retombée. Rapidement et majoritairement, les Allemands de l'Est ont réclamé la réunification, avec l'idée de passer d'une société dictatoriale gérant la pénurie à un monde de liberté et d'abondance. Mais la réunification a été douloureuse en quelques mois. Un pays, la RDA, a été rayé de la carte et l'intégration à marche forcée des Allemands de l'Est dans le monde capitaliste a été particulièrement violente pour une population qui en garde bien des frustrations. Lors des dernières élections, les scores importants de l'extrême droite dans plusieurs Länder de l'Est illustrent ce malaise d'une population qui, 29 ans après la réunification, estime ne pas avoir trouvé toute sa place dans l'Allemagne réunifiée. Nous sommes à Berlin, nous avons posé nos micros à l'Institut français de Berlin qui nous accueille très très gentiment et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Kasine Schwan.
Bonjour aussi.
Vous êtes président de la commission des valeurs fondamentales du SPD, le Parti social-démocrate allemand, et vous avez été présidente de l'Université européenne de Viadrina. Elle est située à Francfort sur l'Oder, c'est-à-dire à la frontière ou non loin de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne.
C'est ça.
Une université très européenne.
Très européenne qui avait seulement 3 départements, mais qui était vraiment très orientée à éduquer des gens qui travailleraient aussi à Bruxelles. J'ai très souvent rencontré mes anciens étudiants à Bruxelles.
Gerline Schwartz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste documentariste. Vous avez écrit un livre qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a eu le prix du livre européen l'an dernier qui s'appelle Les Amnésiques. Je donne le titre en français, en allemand, on dit.
Die Gedächtnislosen. C'est un peu une invention. Mais...
C'est un peu une invention. en tout cas, il a eu le prix du livre européen. Il a d'abord été écrit en français puis traduit en allemand, c'est ça?
Puis traduit en allemand et en 9 autres langues. C'est un livre européen.
Un livre européen publié chez Flammarion en français. Et vous êtes aussi documentariste et vous venez de réaliser un film qui est en plein dans nos préoccupations, à savoir les espoirs perdus de la réunification. C'est un documentaire, une cinquantaine de minutes, qui sera diffusé quand ?
Ce soir, à 22h30, sur France 5.
Sur France 5, donc tendez l'oreille. Il y aura évidemment un petit extrait sur la page de l'émission. René Schlott, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien au Centre d'histoire contemporaine de Leipzig.
Non, à Potsdam.
À Potsdam. Oui. Bon, ça reste quand même l'Allemagne... L'ex-Allemagne de l'Est, dans les deux cas de figure.
Oui.
Anne Pirwitz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistante à l'université, et là aussi de Potsdam.
Voilà.
Et puis Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne, ai-je besoin de le présenter ? Bonjour Pascal. Alors, j'ai parlé d'un moment d'euphorie, ce 9 novembre 1989. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est le bon mot ? Alors je pose évidemment cette question à ceux qui ont autour de cette table 30 ans et un peu plus, parce qu'évidemment, pour ceux qui ont moins de 30 ans autour de cette table, évidemment, c'est plus difficile de répondre à cette question. Alors, je me tourne vers vous, Kasine Schwan. Est-ce que, quand vous avez découvert que le mur de Berlin s'effondrait, est-ce que vous avez été euphorique ?
Oui, j'ai été extrêmement heureuse, il faut dire ça, bien que, pour moi, ce ne soit pas été tout à fait surprenant. Je me souviens qu'en 87, quand Reagan était à Berlin, et disait « Mr. Gorbachev, tear down this wall », j'étais interrogée par la télévision canadienne pour leur répondre à la question « Est-ce que c'est vraisemblable ? Est-ce que c'est tout à fait irréaliste ?» Et je dis « Évidemment, ça ne va pas commencer ici à Berlin, mais je suis assez sûre que ce mur n'existera plus dans 10 ans, parce qu'on pouvait observer dans la RDA depuis 30 ans que la pression ou la peur de la population diminuer d'année en année, et je crois que finalement une dictature peut mal se tenir quand les gens n'ont plus peur. Et d'ailleurs, le Politburo en octobre 89 disait aux politiciens, écoutez, on ne peut plus maintenant contenir cette population.
Donc vous aviez une euphorie un peu...
J'ai été très heureuse, néanmoins, parce que je suis berlinoise, je suis née à Berlin-Ouest, et très souvent, je me suis dit, mais si j'étais née 30 kilomètres plus à l'Est, j'aurais eu une vie complètement différente, avec beaucoup plus de problèmes, j'aurais peut-être fini dans la prison, je ne sais pas, ou bien comme opportuniste, carriériste, on ne sait jamais. Mais de toute façon, évidemment, je savais très exactement que cette vie à Berlin-Ouest, bien qu'elle ait été encerclée, pour ainsi dire, par la RDA, a été extrêmement plus facile et plus heureuse aussi que si l'on vivait à Berlin-Est. Il faut dire, il y a aussi eu des vies heureuses à Berlin-Est. Il ne faut pas dire que les gens là n'aient pas eu une vie heureuse. Alors, il faut faire attention. Mais néanmoins, j'ai été très politique. Je suis née dans une famille très politique. Alors, dans ce contexte, je crois que j'aurais été très, très malheureuse.
René Schlott, vous êtes née en Allemagne de l'Est, en RDA. Et quand le mur tombe, vous avez 12 ans. Vous avez des souvenirs ?
Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, mais je n'ai pas de souvenirs pour le 9 novembre parce que mon village est très loin de Berlin et j'ai plus de souvenirs quant à la manifestation au Alexanderplatz le 4 novembre et aussi les changements des régimes de Erich Honecker à Egon Krenz et de Egon Krenz à Hans Motrow. Ça, c'est les souvenirs plus mémorable pour moi.
Géraldine Schwartz, vous étiez là le 9 novembre 89 ?
Non, moi j'étais devant la télévision avec mon père, un Allemand de l'Ouest, et ma mère, une Française, mais je me souviens quand même qu'on a pleuré face à ces images qui sont, même aujourd'hui, continuent à me faire pleurer, d'Allemands de l'Est et d'Allemands de l'Ouest qui s'embrassent. Et très peu de temps après, avec ma classe, nous nous sommes rendus à Berlin, et je me souviens avoir pris un petit bout de mur, et surtout d'être allée à Berlin-Est. Et c'est intéressant ce que dit Gesine Schwan, parce que je me souviens de Berlin-Est, qui était gris, enfin ça ressemblait à un monde en noir et blanc, on y mangeait mal, il y avait peu de couleurs, et je me disais, mais qu'est-ce que la vie a dû être triste en Allemagne de l'Est. Et c'est seulement plus tard que j'ai réalisé que même sous une dictature, le soleil brille.
Alors, peut-être pas le 9 au novembre, peut-être pas le 10, mais peut-être le 11. Qui a vraiment compris ce qui se passait, ce qui était en train de se passer ? Gesine Schwan, est-ce que vous avez compris que c'était un monde qui s'effondrait très rapidement, ou que c'était évidemment une page d'histoire importante, mais que voilà, ça n'allait pas bouleverser le monde tel que ça l'a été dans les années suivantes ? Est-ce que vous avez compris, entendu justement, que femme politique, que voilà, c'était une page importante qui se tournait, et même un chapitre tout entier ?
Oui, je crois que si, parce qu'il y avait beaucoup de discussions là-dessus aussi dans le Parti social-démocrate. S'il y avait la possibilité d'avoir deux Allemagnes, Ouest et Est, comparables à une Autriche neutre, etc. Moi, j'y ai jamais cru dans cette perspective, parce que tout d'abord, il y avait Berlin, et c'était pas raisonnable de croire que cette cité serait séparée une fois pour toutes. Mais surtout, dès qu'il y aurait des libertés démocratiques dans l'Allemagne de l'Est, j'étais très sûre que ça se réunirait parce que ça aurait été un peu artificiel. C'était quand même pas deux Allemagnes, bien que maintenant on voit que les socialisations aient eu un effet assez grave et restant, mais j'ai toujours cru que dès que le régime s'effondrait, ça serait la réunion. J'étais très sûre.
René Schlott, c'est vrai, comme l'évoquait Gesine Schwan, il y a eu, en tout cas au tout début de ce mois de novembre, peut-être jusqu'en décembre, l'idée que deux Allemagnes pouvaient cohabiter, l'une libérale et capitaliste, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, et puis une autre qui aurait continué sous une forme de socialisme, comme on dit en français, un socialisme à visage humain. C'est une idée qui a duré quelques semaines, mais qui n'a pas duré plus longtemps que ça.
Oui, tout à fait. Il y a eu l'idée d'une troisième
voie.
Oui, exactement. Mais l'idée gagnait jamais une majorité de l'Allemagne de l'Est. Ça, c'est un problème pour tous les partis nouveaux, comme le Neue Forum, comme Demokratischer Aufbruch et l'autre. Parce que pour quelques semaines, l'idée est vraiment vivante. Mais après l'élection des 18 mars 1990. 90, exactement. L'idée est morte. Oui. Parce que cette élection va décider par le choix de l'Allemagne de l'Est pour le D-Mark.
Effectivement, le Pascal Thibault, le Deutsche Mark a eu un rôle très très important dans la réunification. J'ai noté une petite phrase qu'on entendait, un petit slogan qu'on entendait dans ces années-là. Si le Deutsche Mark ne vient pas à nous, c'est nous qui irons à lui, Pascal Thibault.
Oui, effectivement, c'est vrai que au-delà des défenseurs d'une troisième voie, c'est vrai aussi que beaucoup d'Est-Allemands espéraient profiter de ce qu'ils voyaient tous les jours en regardant la télévision ouest-allemande, et donc ça signifiait aussi avoir aussi les devises qui allaient avec. Si on se contentait des marques de l'Est, on ne pouvait pas évidemment beaucoup profiter de tout ce qu'il y avait dans les vitrines des magasins de l'Ouest, et donc il risquait effectivement d'y avoir un accroissement de la vague de migration d'Est en Ouest. En 89 et 90, sur les deux années, 750 000 Allemands de l'Est partent en Allemagne de l'Ouest. Et donc, on veut essayer de contenir cette vague, qui ne va d'ailleurs pas sans poser des problèmes parfois à l'Ouest, en introduisant rapidement et à un taux assez préférentiel pour les Allemands de l'Ouest, le 1er juillet 1990, le Deutsche Mark dans toute l'Allemagne, avec des conséquences qui seront très négatives pour les entreprises.
Alors, finalement, Géraldine Schwarz, c'était une idée très généreuse. C'est Helmut Kohl, à l'époque chancelier, qui a dit le taux de conversion entre le Mark de l'Est et le Mark de l'Ouest, ce sera un Mark Est égale un Mark Ouest. Alors que quelques semaines auparavant, le taux de conversion c'était autour de 4,5. Avec 4 ou 5 marques de l'Est, on avait un seul Mark de l'Ouest. C'est une idée généreuse. Non, Géraldine Schwarz, vous n'êtes pas convaincu.
Non.
Alors, regardez le choix.
Ça n'avait rien à faire avec la générosité.
Non, alors.
Pas du tout. C'était une idée politique parce qu'en fait, ils croyaient qu'ils ne pouvaient plus contenir cette RDA, mais on l'avait informé que ça aurait des conséquences économiques très problématiques. Lui-même, il n'était pas généreux dans le sens qu'il donnerait quelque chose aux Allemands de l'Est, au contraire, parce qu'avec cette décision et d'autres qui suivaient, on pouvait voir que c'était plus ou moins la destruction de l'économie RDA. Leur marché disparaissait avec cette parité des marques Est et marques Ouest, et par-dessus le marché aussi les autres marchés étaient en train de se détruire. Alors là, c'était vraiment économiquement un grand problème. Et d'ailleurs, il avait été averti par la Banque nationale. Et le chef de la Banque nationale a démissionné. Il y en avait un autre, alors après, qui est venu. Et en général, ceux qui avertissaient que le développement économique serait très problématique avec cette décision, mais aussi avec d'autres concernant la propriété des usines et le chômage et tout ça, le marché qui vraiment serait très cruel avec ces anciennes entreprises, ceux-là, très souvent, donnait l'impression qu'ils n'étaient pas intéressés vraiment à la réunification psychologiquement. Par exemple, dans le SPT, c'était La Fontaine qui faisait l'avertissement, mais qui n'avait pas de contact sentimental.
La Fontaine, c'est un petit peu l'aile gauche du SPD.
Oui, et les autres, oui, parce que son placement dans la géographie politique, c'est parfois difficile, ni vraiment. Mais je veux dire que, tandis que les autres qui étaient plus faciles, pour ainsi dire, et comme vous avez d'abord dit, généreux, ne faisaient pas attention à ces conséquences.
Alors c'est vrai il paraît que Helmut Kohl a dit quelque chose dans ce genre-là. Écoutez, moi je suis un homme politique, je prends des décisions politiques, vous les économistes, trouvez-moi des solutions pour que ça marche. C'est un petit peu ce qu'il a dit, en tout cas, Géraldine Schwarz.
Est-ce qu'il avait vraiment le choix, hein? Je crois qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile, puisque le pays était menacé d'hémorragie. Parce que beaucoup d'Allemands de l'Est, comme Pascal Thibault l'a dit, fuyaient à l'Ouest pour rejoindre le Deutsche Mark. Quelque part, avait-il vraiment le choix? Sinon, peut-être que la RDA se serait vidée de ses habitants. Mais je crois que ça, c'est un débat qui est ouvert jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que Gesine Schwan a raison quand elle dit que, à cause de ça, l'augmentation, en fait, du coût de la main-d'œuvre a tué la productivité de la RDA, qui était déjà pas élevée par rapport à l'Ouest.
Alors, Anne Pervitte, on a parlé un petit peu. Vous êtes la plus jeune autour de cette table. Vous n'étiez pas encore née en 1980. On a parlé un petit peu de cette ambiance, de l'euphorie, des difficultés, de la réunification, de l'attrait pour le Mark. Évidemment, à travers le Mark, c'est l'attrait pour la société de consommation, pour Volkswagen, pour Mercedes, pour tout un tas de choses. L'histoire familiale, comment on vous a raconté cette histoire de la réunification dans vos parents? Comment ils vous ont présenté cette réunification?
Alors moi d'abord je dois dire que je suis très contente d'être née après la chute du mur parce que moi j'adore l'Europe, voyager, et mes parents ils pouvaient pas du tout faire ça. Par contre, encore aujourd'hui, souvent mes parents, ils parlent de l'ancien temps, de l'époque, et souvent ils disent que c'était mieux pour eux, la vie en RDA. Parce qu'après la réunification, pour eux, c'était très dur de gagner leur vie, de trouver du travail. Eux, souvent, ils regrettent un peu ce qui s'est passé. Mais moi, personnellement, je suis très, très, très contente que c'est fini et que je peux voyager, travailler, faire des études à l'étranger et tout ça.
Vous n'avez pas lost nostalgie, comme on dit?
Moi, personnellement, non, mais mes parents, parfois, oui.
Alors, Pascal Dibault, évidemment, on va parler un petit peu de la frustration, de la façon dont ça s'est passé dans la deuxième partie de l'émission, mais et de la frustration d'une partie des Allemands de l'Est, comme les parents d'Anne Pirwitz, par exemple, mais est-ce qu'on pouvait faire autrement? Il faut quand même bien se rendre compte que cette réunification, elle a été improvisée. La réunification, elle s'est déroulée en 11 mois. Or, si on compare un petit peu avec ce qui se passe avec le Brexit, ça fait 3 ans et demi que les Britanniques essayent de quitter l'Union européenne dans tous les sens, etc. Ils l'ont toujours pas quitté. C'est vrai que cette réunification, elle a été improvisée, avec certainement beaucoup d'erreurs. On l'évoquera dans la deuxième partie de l'émission. Mais pouvait-on faire autrement, Pascal Thibault?
En tout cas, on n'avait pas de vade-mecum, de mode d'emploi, comment transférer rapidement ou moins rapidement une économie socialiste et la faire rejoindre le modèle de l'Ouest, le modèle capitaliste. Et en plus, comme vous l'avez dit, ça s'est fait à une allure qui a été de plus en plus rapide, en 11 mois. Et donc, les décisions ont dû se faire très rapidement. Et on a choisi la solution la plus rapide, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est a adhéré juridiquement à la Constitution et à l'Allemagne de l'Ouest déjà existante, en reprenant la plupart des règles qui existaient. Et sans doute que là, on aurait pu faire un peu plus dans la nuance, le discernement, réfléchir aux avantages et aux inconvénients des deux systèmes. Et tout ça, ça explique aussi un certain nombre de frustrations. Il y a beaucoup d'autres raisons aujourd'hui.
On peut dire, pour reprendre une formule européenne, pardon, que l'Allemagne de l'Est a récupérer l'acquis communautaire, on dit l'acquis de ce que l'Allemagne de l'Ouest avait construit au fur et à mesure des années, c'était un peu ça. Elle n'a guère eu le choix de modifier quoi que ce soit.
Oui, effectivement, lorsqu'il y a eu un traité d'unification qui a été signé entre les gouvernements Est et Ouest allemand, entre le dernier gouvernement Est allemand élu démocratiquement en mars 1990 et le gouvernement Kohl de l'époque, on peut peut-être réfléchir, disserter sur le fait que celui qui était le négociateur du côté Est a peut-être trop fait de concessions en faveur de l'Ouest et de Bonn, et qu'on aurait pu peut-être se battre pour obtenir plus. C'est vrai qu'il y avait les gagnants de l'histoire et les perdants, et on sait commencé dans l'histoire, en général, ce sont les règles du jeu du gagnant qui s'imposent, en tout cas après la fin des conflits.
D'un mot.
Vous avez demandé si l'on ne pouvait pas faire autrement. C'était une époque d'une politique économique très radicale dans le sens du néolibéralisme et de la radicalisation du marché. Et il est très intéressant déjà avec cette institution de la Treuhand, je ne sais pas très bien comment ça se traduit en français, c'est-à-dire l'institution qui a dû disposer de toutes ces entreprises.
Qui a privatisé toutes ces entreprises.
Oui, et alors il y avait le chef de la Treuhand, Rohwedde, qui a été tué, et son vice-chef, c'était Birgit Breuel. Elle était bien plus radicale à ce propos. Ils avaient deux stratégies déjà différentes, parce que lui, il voulait d'abord rétablir les entreprises et puis les vendre. Tandis qu'elle, elle a dit non, il faut s'en défaire le plus vite possible pour ne pas perdre de l'argent. Il faut les mettre, pour ainsi dire, dans le vent difficile du marché. Et c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup d'entreprises disparaissaient. Il y avait 4,5 millions de positions de travail. 2 millions se sont perdus dans les deux premières années. On s'imagine ça, la moitié presque. Et ça n'était pas absolument nécessaire. Et le chef de la Banque nationale, Tietmeyer, qui avait suivi l'autre, il a dit qu'on n'a pas fait attention au côté mental, on pourrait aussi dire psychologique, de l'unification. Alors on a juste économiquement et mécaniquement, pour ainsi dire, dans cette idéologie du marché, très vite se débarrasser de tout.
Et cela a provoqué quelques frustrations qu'on évoquera dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. On se retrouve à Berlin dans 3 minutes.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rescrucia europei.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Berlin, à l'Institut français sur le Kurfürstendamm. Je ne sais pas si je le prononce bien, Géraldine
Schwab. Presque.
Dites-le pour moi.
Kurfürstendamm.
Ah, j'étais pas loin. À l'occasion en tout cas des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Et nous nous interrogeons, 29 ans après la réunification, deux Allemagnes coexistent-elles toujours? Nous sommes avec Gesine Schwan, elle est présidente de la commission des valeurs fondamentales du SPD, le parti social-démocrate allemand, et ex-présidente de l'Université européenne de Viadrina, qui est à Francfort-sur-l'Oder, c'est-à-dire tout près de la frontière polonaise. Avec Géraldine Schwartz, elle est journaliste et documentariste. Elle a un documentaire qui passe ce soir sur France 5 à 22h30 et qui s'intitule Les espoirs perdus de la réunification. Avec René Schlott, il est historien au Centre d'histoire contemporaine de Leipzig, de Potsdam. Et puis avec Anne Pirwitz, elle est assistante, elle aussi, à l'université de Potsdam. Et bien sûr avec Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Gesine Schwan nous expliquait un petit peu à quel point l'administration de la Troïka, qui a géré la privatisation des entreprises et des biens de l'Allemagne de l'Est, avait géré ça d'une manière ultra libérale. Ce qui est sûr, René Schwan, c'est que ça a provoqué énormément de fermetures d'entreprises, ça a mis énormément de monde au chômage, plus ou moins 2 millions d'Allemands de l'Est, un pays qui comptait 17 millions d'habitants, faut évidemment extrêmement important. Ça a créé un traumatisme et des frustrations après l'euphorie de la chute du mur.
Frustration et beaucoup de déceptions de la révolution pacifique. Mais si vous permettez, je voudrais ajouter un point. Pour moi, le rôle de Treuhand est important, mais n'est pas la seule raison. Il y a une de plusieurs raisons pour les catastrophes économiques après la réunification. L'autre raison est l'économie planifiée
avant, bien sûr,
durant 40 ans en Allemagne de l'Est, et aussi l'union monétaire en juillet 1990 était très vite, mais aussi nécessaire, Géraldine Schwartz a dit, mais aussi l'union monétaire est une de plusieurs raisons pour les problèmes économiques après les réunifications.
Alors, c'est vrai que il faut se poser la question, quand on se posait la question tout à l'heure dans la première partie de l'émission, pouvait-on faire autrement? Il faut bien voir que l'industrie est-allemande était peu productive, technologiquement peu développée, très polluante, elle était difficilement réformable, Gesine Schwan.
C'est vrai, tout ça c'est vrai, et surtout évidemment, elle était une économie planifiée qui ne fonctionnait pas comme les fondateurs voulaient qu'elle soit créative. Mais il n'y a pas seulement, pour ainsi dire, les chiffres d'économie, et on n'a pas vu ça du temps de la réunification. Peut-être maintenant, de notre temps, c'est bien plus facile de voir ça. Prenons les entreprises. Il y en avait qui n'étaient pas du tout rentables. Néanmoins encore, Roveda voulait d'abord les reconstruire, parce que psychologiquement, c'est une grande différence. Si vous quittez votre entreprise, et puis elle est foutue, elle est détruite même physiquement, et rien ne va plus. Tandis que si vous la voyez reconstruite, par cela, implicitement, votre travail est valorisé, parce que ça ne se perd pas dans le néant, ça se rétablit, et si l'on avait pu vendre ces usines dans une meilleure condition, implicitement, la valeur de ces gens-là aurait été valorisée. Et je crois que c'est ça le facteur psychologique, que beaucoup d'habitants de l'Allemagne de l'Est ne se sont pas sentis estimés, ne se sont pas sentis valorisés. C'est ça, psychologiquement, qui est l'essentiel.
Géraldine Schwartz, est-ce qu'on peut parler d'une forme d'arrogance des Allemands de l'Ouest à l'égard des Allemands de l'Est?
Alors écoutez, moi ma source c'est mon père qui travaillait à la Treuhand-Anstalt, il a été envoyé en mission avant même la réunification en septembre 1990. Quand il est arrivé en RDA, la première chose qu'il a constatée c'est l'état pitoyable des usines. Et même lui ne s'y attendaient pas, parce que malgré tout, quand même, la RDA vendait, enfin la propagande vendait la RDA comme 10e nation industrialisée au monde. Même mon père ne s'y attendait pas. Ceux qui s'y attendaient encore moins, ce sont les Allemands de l'Est. Et donc, eux, quand on a liquidé les fleurons de l'industrie, ceux qui croyaient être les fleurons de l'industrie est-allemande, l'un après l'autre, n'ont pas compris, parce qu'ils pensaient avoir une économie beaucoup plus forte qu'elle l'était en réalité. Mon père arrive, les structures, les bâtiments sont dans un très mauvais état. L'équipement est totalement dépassé. Et c'est des industries qui sont extrêmement polluantes. Comment convaincre les investisseurs? C'est très difficile à l'époque, on peut pas forcer quelqu'un à d'acheter un produit qui a très peu de valeur. Alors oui, Gesine Schwan parle de Zanion, donc assainir les entreprises, mais avec quel argent? C'était ça aussi le problème à l'époque. L'argent des contribuables ouest-allemands qui étaient d'accord pour assainir les entreprises avant de les vendre. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de cette période de Rohweder, c'est que Rohweder a très vite abandonné cette idée d'assainir avant de vendre, et qu'il est très vite passé à l'idée de privatiser immédiatement avant d'assainir, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'argent.
Alors, on va pas rentrer dans cette querelle germano-allemande.
C'est important parce que la Treuhandanstalt en Allemagne aujourd'hui est vraiment, par en Allemagne de l'Est, incarne un petit peu le démon qui est à l'origine de tous les maux. Et un des problèmes, c'est qu'on ne connaît pas assez bien la Treuhandanstalt, qui a commis quand même des erreurs. Mais il faut quand même rétablir aussi les choses.
Il paraît qu'on connaît mieux les archives de la Stasi que les archives de la Treuhand. Il paraît-il.
Les archives ne sont pas ouvertes de la Treuhand.
Donc c'est une bonne explication. Hein. Anne Pirwitz, est-ce que vos parents ont été licenciés, par exemple, au lendemain de la réunification?
Alors, ma mère, elle était prof. En tant que RDA, mais le problème c'était qu'elle a travaillé aussi dans le domaine politique, et donc pour elle c'était un problème alors après de trouver du travail. Et maintenant elle a une retraite de 500 euros, et c'est clair qu'ils ne sont pas contents avec le système maintenant.
Pour vos parents, oui. C'est un monde qui s'est effondré.
Oui.
Si elle était professeure, elle était convaincue de ce qu'elle faisait.
Oui. Et mon père, il était architecte, pour lui c'était un plus facile. Même maintenant, il doit encore travailler. Il est déjà en retraite, mais il doit encore travailler pour gagner sa vie. Et on commence que les gens de cette génération, ils ne sont pas contents, surtout avec les retraites maintenant et avec tous ces changements. Ouais.
Pascal Thibault, les Allemands de l'Ouest qui ont mené cette réunification, plus que les Allemands de l'Est par définition, est-ce que c'est un petit peu ce que commençait à dire Gesine Schwan, est-ce qu'ils ont sous-estimé la dimension psychologique de cette réunification? C'était une réunification d'abord économique, on oubliait le psychologique, puis on verra aussi un peu qu'on a peut-être oublié autre chose encore.
Oui, je pense que ça, effectivement, d'abord ça n'a pas joué un rôle essentiel. D'abord il fallait régler très vite les aspects juridiques, les comment procéder aux privatisations, et ces aspects soft entre guillemets sont sans doute passés à l'arrière-plan, peut-être aussi parce que à l'Ouest on connaissait pas forcément, on n'avait pas forcément toujours des contacts familiaux privés, on connaissait pas forcément toujours la façon dont la vie était à l'Est, et en même temps, on l'a déjà dit, il y avait aussi cette forte volonté, en premier en tout cas, des gens de l'Est d'avoir enfin accès à ce dont, pour en tout cas pour beaucoup d'entre eux, ils rêvaient à travers les médias ouest-allemands qui rêvaient. Donc ça, on l'a sans doute sous-estimé, et c'est vrai que ça laisse des séquelles. On voit encore dans un sondage publié cette semaine que à peu près 4 Allemands de l'Est sur 5 a l'impression d'être un Allemand de deuxième zone, et que sa vie n'ait pas été suffisamment valorisée. Et comme l'a dit Gesine Schwan, le soleil brillait aussi à l'Est, on pouvait aussi avoir une vie heureuse, faire la fête, avoir des amis et passer des vacances agréables. Et si on ruait pas dans les brancards, on menait une vie assez paisible et confortable, en étant sûr d'avoir un emploi, et tout était pris en charge du berceau jusqu'au cercueil. Et toutes ces certitudes, évidemment, s'effondrent avec la chute du mur, et cet aspect psychologique provoque beaucoup de rancœur, sans doute jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une des explications, c'est très compliqué, mais sans doute aussi du succès aujourd'hui de l'extrême droite qui récupère ces frustrations accumulées.
René Schlott, il y a une incompréhension à un moment de cette réunification entre l'Est et l'Ouest, les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, on dit ça nous a coûté très très cher cette réunification, on l'estime à, peut-être en arrondissant, à 2000 milliards de marks, ce qui fait quand même plus de 1000 milliards d'euros, voilà, et à l'Est, on dit, on a malgré tout le sentiment d'avoir été annexé. Il y a une incompréhension un peu fondamentale au-delà de l'économie, du psychologique.
Je déteste les mots des annexions ou des colonisations parce que les Allemands de l'Est ne sont pas des gens passifs, sont des gens actifs. Ils faisaient en révolution pacifique. Ils ont décidé pour cette nouvelle république et pour la réunification dans l'élection libre. Et pour ça, je voudrais dire que l'annexion, c'est exagéré. Et aussi, comme Géraldine Schwarz a dit, le Treuhand est devenu un symbole pour tous les échecs de cette transformation. Mais je pense, en général, le développement est plus un succès qu'un échec. Et je voudrais dire aussi que la solidarité, ok, est payée aussi par les Allemands de l'Est.
Ce que beaucoup d'Allemands de l'Est ne savent pas.
Exactement, oui.
Un pot qui avait été créé pour financer la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Et c'est vrai que beaucoup ont l'impression à l'Ouest que c'est eux seuls qui ont payé. Et aujourd'hui, ils se disent, écoutez, ça fait 30 ans qu'on paye pour vous et maintenant, vous votez à 25% pour l'AFD. Est-ce que c'est ça qu'on a mérité pour raccourcir?
Oui, mais en fait, beaucoup d'Allemands de l'Ouest ne savent pas que les Allemands de l'Est payent aussi cet impôt pour commencer. Et d'ailleurs, de se sentir comme... Allemands de second rang, c'était déjà le cas avant 89. Parce que, par exemple, si des Allemands de l'Est passaient des vacances à la mer Noire, ils savaient très bien que si les Allemands de l'Ouest arrivaient dans un bel hôtel, ils pouvaient y entrer, ils pouvaient payer avec leur Deutschmark. Tandis que les Allemands de l'Est ne pouvaient pas. C'est-à-dire, il y avait déjà, avant 89, un sentiment de beaucoup d'Allemands de l'Est qu'ils étaient considérés, surtout à l'étranger, comme Allemands de second rang. Et je crois que jamais je voudrais, comment dire, dessiner en bleu ce que les Allemands, ce qui s'est passé avant 89, parce que j'étais social-démocrate de droite, parce que j'étais profondément anticommuniste. Je crois que le régime était vraiment affreux. Néanmoins, il faut faire la différence entre la vie des gens et ce système communiste. Et le problème est que, de la part des Allemands de l'Ouest, très souvent, quand ils parlaient à leurs compatriotes, ils avaient toujours une sorte de méfiance si ces Allemands de l'Est n'étaient pas des communistes convaincus. Maintenant, ils n'étaient pas tous des communistes convaincus, mais parfois ils vivaient bien. Et les Allemands de l'Ouest, très souvent, croyaient qu'ils avaient le droit de juger les gens de l'Est. Et là, c'est de la poison pour les relations humaines.
Carrefour de l'Europe est à Berlin. 30e anniversaire de la chute du mur.
Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Berlin. 30 ans après la chute du mur, subsiste-t-il deux Allemagnes? Nous sommes avec Gesine Schwan, présidente de la commission des valeurs fondamentales du SPD, avec Géraldine Schwarz, journaliste et documentariste, avec René Schlott, historien, avec Anne Pirwitz, assistante à l'université de Potsdam, et avec Pascal Thibault, correspondant de RFI en Allemagne. Alors, on a compris que cette réunification a provoqué un certain nombre de frustration, peut-être de rancœur. Est-ce que cette frustration qui explique la traduction politique qui est une montée importante de l'extrême droite dans les Länder de l'Est, Géraldine Schwarz?
Pour moi, le mur invisible qui continue de traverser l'Allemagne est moins économique que démocratique. Je pense que la transition la plus difficile, c'était la transition démocratique. Et ça s'exprime, selon moi, quand même, dans les scores du parti d'extrême droite AFD, qui à l'Est sont au moins deux fois plus élevés qu'à l'Ouest. Alors, comme j'ai fait un travail sur justement le travail de mémoire en Allemagne de l'Ouest, je me suis rendu compte que à l'Est, ce travail de mémoire n'avait pas été fait comme il avait été fait à l'Ouest, dans le sens où la RDA a quand même été fondée sur un mythe, le mythe que la plupart des Allemands de l'Est avaient été des résistants communistes aux nazis. Et donc, beaucoup d'Allemands de l'Est, dans le travail de mémoire, se sont identifiés à l'Union soviétique et donc aux victimes et non pas aux persécuteurs. Et on n'a donc pas fait ce travail de mémoire qui fait le cœur de la démocratie en Allemagne de l'Ouest, qui consiste à se dire quel est mon rôle dans l'histoire, quel est mon rôle aujourd'hui, et qui permet aussi de transmettre une certaine sens des responsabilités. Ça, lié au fait que la société est-allemande était une société extrêmement cloisonnée, où il y avait très peu d'étrangers, où les étrangers étaient confinés à des ghettos, où les Allemands de l'Est n'avaient pas le droit de sortir, eh bien cette société, où il y avait une absence de contact avec les étrangers, les cultures étrangères, d'autres religions, d'autres ethnies, eh bien, a favorisé une vision de l'étranger chargée de clichés et de peurs qui s'exprime, selon moi, aujourd'hui, dans cette xénophobie qui apparaît en Allemagne de l'Est aujourd'hui.
Alors, je vais m'adresser à l'historien, à vous, René Schlott. Est-ce que vous partagez cette analyse de Géraldine Schwartz, à savoir que l'absence de travail de mémoire sur le passé allemand, sur le passé nazi, avec l'idée que les Allemands de l'Est étaient les bons Allemands quand les Allemands de l'Ouest étaient les mauvais. Est-ce que c'est une explication importante de la situation en Allemagne de l'Est, à savoir la montée plus importante de l'extrême droite à l'Est qu'à l'Ouest?
Je ne suis pas sûr, parce que le racisme existait aussi au RDA, où les gens étaient très racistes contre les gens de Mozambique, des Gastarbeiter du Vietnam, et l'État antifascisme avait aussi un problème raciste, et je pense que la continuité est plus dure que vous avez dit.
Mais ça ne contredit pas ce que je viens de dire, en fait.
Pardon ?
Ça ne contredit pas ce que je viens de dire, que vous avez dit. Okay. Oui, c'était effectivement la propagande qui vendait une RDA internationaliste. Oui. En vérité, la RDA était même assez nationaliste. Il n'y avait pas seulement du racisme, mais il y avait aussi une tendance à puiser dans le pathos nationaliste.
Anne Berbitz, comment vous jugez un petit peu ce qui vient d'être dit? Comment vos parents, par exemple, et vous, cette différence? Il y a évidemment entre vos parents et vous, on l'a compris, une différence générationnelle et culturelle.
Oui, alors, quand je regarde les derniers résultats de vote, ça me choque vraiment que c'est surtout la jeune génération qui a voté l'extrême droite, et surtout dans les pays de l'ancien RDA. À mon avis, ça a plusieurs raisons. D'abord, c'est aussi parce que peut-être leurs parents, ils leur parlent de l'ancien temps, de l'ancienne époque où tout était mieux. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une frustration dans la jeune génération. Il y a moins de travail dans l'Est. Il y a moins d'infrastructures. Il y a des écoles qui sont fermées. Je vois ça dans mon petit village d'où je viens. Il y a le lycée qui est fermé parce qu'il manquait un seul jeune. Pour avoir le minimum d'élèves. Après, il y a le foyer des jeunes qui va être fermé. Il y a tout qui va être fermé. Tous les jeunes gens, ils partent. Ils vont à Berlin, ils vont dans l'Ouest pour trouver plusieurs opportunités qu'ils n'ont plus dans leur région. Et ça fait qu'ils sont frustrés. Et je comprends que les jeunes, ils partent parce qu'il n'y a plus grand-chose qui leur fait rester là. Et à mon avis, c'est aussi un vote de proteste. Il y a beaucoup de gens qui sont seulement frustrés, mais c'est grave qu'ils votent pour les partis de l'extrême droite, à mon avis. C'est parce que ça ne change pas le système et les problèmes.
Je sens que vous voulez réagir.
Oui, je voudrais dire parce que j'avais fait une recherche avec des Français, des Polonais et des Allemands à propos du travail de la mémoire. Et la mémoire, évidemment, en Allemagne de l'Est, n'avait pas la condition de pouvoir parler librement, n'est-ce pas? La situation de la soi-disant seconde génération, c'est-à-dire née entre 40 et 50, à l'Ouest et à l'Est, était complètement différente. À l'Ouest, il y a eu des conflits énormes avec 68, etc. À l'Est, cette seconde génération connaissait ce que c'était qu'on ne pouvait pas parler librement, c'est-à-dire vis-à-vis de leurs parents qui n'avaient pas parlé librement. Dans le régime nazi, ils avaient une attitude tout à fait différente que les Allemands de l'Ouest, qui leur reprochaient qu'ils n'avaient pas le courage, etc. Mais eux, ils ne pouvaient pas avoir ce courage. Pour l'Ouest, c'était très facile. Et puis, il y avait cet antifascisme qui était, pour ainsi dire, stable pour 30 ans, qui évidemment n'était pas vivant. Tandis que dans l'Allemagne de l'Ouest, avec les discussions publiques, il y avait beaucoup de changements. C'était beaucoup plus enraciné, surtout quand les jeunes Allemands de l'Ouest ont compris que c'était leur père qui avait travaillé dans les camps de concentration pour persécuter les autres. Ça, c'était toujours des déceptions extrêmes, parce que c'était pas le nazisme abstrait où une génération était mauvaise, mais c'était leur père. Primordialement, aussi parfois les mères, qui avaient été, pour ainsi dire, criminelles dans ces camps. Alors là, c'était, tout ça ne se faisait pas officiellement dans l'Allemagne RDA parce qu'il n'y avait pas la possibilité, autrement ils auraient réagi de la même façon.
C'était la politique officielle, la politique mémorielle officielle.
Si je veux un peu simplifier les choses, les Allemands de l'Est ont grandi avec l'idée que il n'y avait pas de descendants de nazis en Allemagne de l'Est. C'est un petit peu
ça,
ce que vous avez voulu dire.
Vision, mais il faut aussi faire des différences, parce qu'il y avait quand même cet antifascisme. La RDA n'avait pas véritablement de possibilité d'expliquer l'antisémitisme, parce que ça n'entrait pas dans leur vision marxiste entre les classes. C'était les capitalistes qui ont fait tout ça. Bon, alors les capitalistes et les juifs, ça va très souvent ensemble. C'était très, très difficile. Mais il y avait aussi... Il faut dire, il y avait de véritables gens de la résistance qui vivaient dans la RDA, qui étaient aussi dans les gouvernements. Mes parents étaient dans la résistance. Et ils étaient ensemble, ce qui était assez rare, avec des social-démocrates et des communistes. Les communistes, normalement, étaient beaucoup plus persécutés dans leur groupe de résistance à Berlin-Reinickendorf. C'était les communistes qui étaient tout meurtrifiés parce qu'il y avait beaucoup d'ouverture, là. C'était très difficile. Tandis qu'il y avait des communistes, pour ainsi dire, on les appelait des communistes de moralité qui voulaient vraiment construire un meilleur monde, qui n'étaient pas tout à fait, pour ainsi dire, des mauvais gens. Mais après, ils ont collaboré avec tous ces mécanismes stalinistes qui s'établissaient dans la RDA. Et pour reconstruire cette mémoire, il faut encore beaucoup de temps, je crois, parce qu'elle est très difficile. Il y avait aussi, par exemple, des coopérations entre les Allemands de l'Est et la Pologne. Normalement, c'était des délégations, c'était officiel, les Polonais n'aimaient pas ça. Mais il y avait aussi des amitiés véritables. Alors, il faut vraiment faire attention.
Les dirigeants d'Allemagne de l'Est, qui avaient une expérience de résistants communistes, ont projeté leur expérience sur l'ensemble de la société. Oui. C'est ça le problème. Mais l'ensemble de la société avait été des Mitläufer, enfin des adhérents des nazis, comme
bien
à l'Ouest.
Bien sûr.
Pascal Thibault, 29 ans après la réunification, 30 ans après la chute du mur, c'est vrai que dans les grandes sociétés, au niveau politique, au niveau dans les médias, les Allemands de l'Est, dans les grands postes de direction, sont très peu présents. Et là aussi, c'est une source un petit peu de frustration. C'est une réunification qui, en tout cas, n'est pas achevée à ce niveau-là.
Oui, c'est vrai, ça ne contribue pas non plus à développer l'euphorie ou l'adhésion des Allemands de l'Est à l'Allemagne unifiée d'aujourd'hui. C'est vrai qu'au départ, c'était nécessaire, c'est-à-dire que comment voulez-vous, par exemple, pour les tribunaux, reconstruire une juridiction basée sur l'état de droit avec des juristes qui venaient d'une dictature communiste? Ça paraît difficile. Mais effectivement, 30 ans plus tard, ou 29 ans plus tard, vous avez très peu de présidents de tribunaux qui sont originaires de l'Est. Il n'y a aucun président d'université en Allemagne qui est originaire de l'Est. Dans les médias, au niveau des rédactions en chef ou en dessous, c'est le cas, dans les administrations. Et donc, ça aussi, ça provoque le sentiment de n'être pas suffisamment représenté. Il n'y a aucune grande entreprise en Allemagne, mais bon, on ne peut pas les obliger à déménager à l'Est, qui y soit installée. Tout ça fait que certains peuvent avoir l'impression, le terme a déjà été évoqué, d'une certaine colonisation. Et on voit que c'est très difficile pour la nouvelle génération de percer et d'accéder à des postes de responsabilité, d'où des initiatives qui sont créées également récemment pour prouver qu'il y a aussi des gens de l'Est qui sont compétents, qui réussissent.
Angela Merkel, qui vient de l'Est, est un petit peu l'arbre qui cache le désert, c'est ça?
Oui, surtout qu'Angela Merkel, elle a jamais vraiment mis en avant ses origines de l'Est. Donc, elle n'a pas forcément contribué à provoquer une plus grande adhésion de ses concitoyens originaires de l'ex-RDA à l'Allemagne d'aujourd'hui. Il y a eu un président de la République, Joachim Gauck, qui était originaire de l'Est et qui, disons, a une certaine distance, pour faire dans l'euphémisme, par rapport à ses ex-concitoyens. Il parle parfois d'eux à la troisième personne du pluriel plutôt qu'à la première personne du pluriel. Et on sent souvent, même parfois, une certaine arrogance dans ses déclarations. Donc là aussi, on n'a pas non plus un des rares représentants arrivés à la tête de l'État. N'a pas forcément contribué à susciter, à accroître chez les Allemands de l'Est le sentiment que ça y est, on y est arrivé, on est au top et on est représenté également dans les plus hautes sphères politiques.
Alors on a compris que cette réunification, elle était inachevée, mais néanmoins on va quand même se quitter sur une note un peu optimiste. Le chômage en Allemagne de l'Est, dans l'ex-Allemagne de l'Est, il a été très important, il est aujourd'hui aux alentours de 6%, c'est presque le plein emploi, et c'est vrai aussi, c'est des problèmes de démographie, on n'a pas le temps de l'évoquer, c'est environ 4% en Allemagne de l'Ouest. Le niveau de vie moyen, il atteint 90% de celui des Allemands de l'Ouest, donc sur le plan consommation, niveau de vie, un grand nombre de progrès. Et puis une petite statistique que j'ai lue en préparant cette émission, 70% des Allemands vivant à l'Est disent gagnants de la réunification, ce qui dément un petit peu aussi les clichés des aussi. Il paraît qu'ils sont un peu géniards, qu'ils sont pessimistes, qu'ils sont un peu nostalgiques de l'époque socialiste, René Schlott. Tout ça, ça pondère un peu les choses.
Pour moi, il n'y a plus de différence entre l'Allemagne du Nord et Sud. Et personne m'a demandé pour les différences entre le Nord et le Sud. Et ce sont aussi les médias qui concentraient sur toutes les différences en chiffres, en autre chose, entre l'Est et l'Ouest, mais pas entre Nord et Sud.
Alors on reviendra faire une émission ici à l'Institut français de Berlin pour un peu évoquer la différence entre les Allemands du Nord et les Allemands du Sud. Au Nord, on boit beaucoup
les
de bière, au
Sud... Les Allemands de la campagne et les Allemands de la cité, ouais. les Allemands qui vivent à Leipzig.
Ceux qui sont mondialisés, ceux qui ne le sont pas, voilà. En tout cas, on reviendra. On reviendra ici à Berlin faire un autre Carrefour de l'Europe. Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci aux équipes de l'Institut français de Berlin. Technique et réalisation, Benoît Van Den Broek, Bertrand Eclair et Benjamin Availlou. Pour réécouter cette émission et toutes celles qui l'ont précédée, deux possibilités, RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. Géraldine Schwartz, on rappelle, ce soir, France 5.
22h30, les espoirs perdus de la réunification.
On reste en contact via Facebook, Twitter, Daniel Escal, où que vous soyez, à Berlin, Paris, ailleurs, dans l'Allemagne du Nord, dans l'Allemagne du Sud, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite à un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
RFI à Berlin, 96.7 FM.